Culture Musique voyage dans les internets. Une série présentée par Julien Goetz et réalisée par Olivier Bétard.
Bien le bonjour à toutes et tous. Quatrième épisode de cette série où nous explorons en musique Internet, ce réseau des réseaux, de sa naissance à aujourd'hui, de ses premiers trips sous LSD aux pop-up publicitaires stromboscopiques, des premières informations échangées aux téraoctets qui transitent désormais dans ces tuyaux, mais surtout, des utopistes qui l'ont rêvé, universitaires, bricoleurs ou militaires, à celles et ceux qui le font vivre à présent, c'est-à-dire une grande partie d'entre nous. Reprenons donc ce voyage là où nous l'avons laissé dans l'épisode précédent, à la fin des années 90. Alors que la peur du grand bug de l'an 2000 monte dans les esprits, la bulle des .com n'en finit plus de gonfler. Le web, né au début des années 90, se transforme en une immense place de marché, une nouvelle frontière virtuelle qui entraîne une énième ruée vers l'or. Les regards médiatiques sont rivés sur l'horizon de cette économie numérique qui s'ouvre, et les politiques n'ont que le mot « nouvelle économie » en bouche. Mais en marge de cette fièvre soudaine, un autre Internet voit également le jour. Celui des pages personnelles et des mèmes. Celui d'une parole libérée et d'une nouvelle contre-culture. Un Internet à hauteur d'hommes et de femmes où continue à se diffuser l'une des caractéristiques principales de l'esprit des pionniers, le détournement. Freedom of speech, motherfucker. Okay. Some for the kids. Step in the club smoothly with the L in my hand. Bitches know that I'm a freak, like the Elephant Man. Intelligent plans, fuck a record deal. I want development land with my benevolent clan. And that's the reason that I only trust my fam. 40,000 records sold, 400 grand. Fuck a middleman, I won't pay anyone else. I'll bootleg it and sell it to the streets myself. I'd rather be that than signed and stuck on a shelf. And because of this, executives try to diss me. Racism frozen in time like Walt Disney. And now they say they wanna get me signed to the majors. If I switch up my politics and change my behavior, tryna tell me what the rhyme about over the beat. Bitch niggas that never spent a day in the street. But I repeat that, nobody can hold my reins. I put the truth on tracks, nigga, simple and plain. I guess to America, I'm a disaster. Oh, no. A slave that was destined to own his masters. Independent in every single sense of the word. I say what I want, you fucking little sensitive herb. This is America. I thought we had freedom of speech. But now you wanna try to control the way that I speak. And O'Reilly, you think you a patriot? Yeah, right. You ain't nothing but a motherfucking racist bitch. Full of hatred, pressing a button, trying to eject me. But I don't got no motherfucking deal with Pepsi. No corporate sponsor telling me what to do. Asking me to tone it down during an interview. Trying to minimize the issue, but I'm keeping it large. I love the place I live, but I hate the people in charge. Speaking is hard when you got strings attached, so I'ma say it for you, cause I don't got none of that. And if you didn't understand what I spit at your brain, ayo son, let this little nigga explain. Come on, son, y'all niggas know the way that I do. ImmortalTechnique.com live for you. And I know sometimes it be making you nervous, the way I smash puppet rappers that belong in a circus. You motherfuckers just can't compare. Looking for a fan base that's no longer there. I know that you're scared and you're hiding up in the cut. But this is freedom of speech, nigga, tell them what's up. Word, nigga, fuck John Ashcroft. Nigga, fuck Fox News. Fuck those snake-ass bitches trying to manipulate your opinion, telling you what to think. Word the fuck up, nigga. Like, we invaded niggas cause we wanna free them. You racist motherfucker. You don't give a shit about those people. You can suck my dick. Relax, Tech, relax. Another rum and coke at the bar, nigga. It's my day off. Word up. Fuck. For the kids. For the kids.
Dans ce titre, Freedom of Speech, sorti en 2003, le rappeur américain Immortal Technique chante sa liberté de ton et de parole. Il y revendique le droit de préférer vendre ses bootlegs dans la rue plutôt que d'être enchaîné à une maison de disques. Il y fustige certains médias mainstream comme Fox News, seul détenteur de la parole publique. Tout un flot qui n'est pas si éloigné de l'esprit qui anime une partie d'Internet à l'orée des années 2000. Mais pas cet Internet des Yahoo ou Amazon ni de leurs entrées en bourse fracassantes. Rappelez-vous, la première start-up sautant dans le grand bain du marché, c'est Netscape Communications, qui édite le navigateur du même nom. Le 9 août 1995, ses actions sont mises en vente à 28$ l'unité. À la mi-journée, l'action s'achète 75$. Du jour au lendemain, l'entreprise, créée 16 mois plus tôt, est valorisée 3 milliards de dollars. On est bien dans le monde virtuel. Or, à l'opposé, un Internet concrétise sa toile. Dans la droite ligne des échanges entre chercheurs sur ARPANET ou des conférences numériques sur la communauté The Well, les sites personnels se développent. Les citoyens prennent la parole loin des porte-voix médiatiques. Chacun bricole sa propre page, fouillant les codes sources des pages voisines, demandant un coup de main sur les forums. L'esprit bricoleur du Homebrew Computer Club règne dans un garage mondialisé.
Here we are at the gates of the great and powerful Oz. And we have come for your children. We are the real politically incorrect. Our lives are not charmed. We work for a living. When was the last time you admitted we even exist? Roseanne? Taxi? Sanford and Son? Jerry Springer. Our kids are not Gap kids. Our young people are not teenage witches. Nor are they clueless to the fact that they neither have nor want anything in common with Dawson's Creek, popular, or spoiled white rich babies 90210.
La voix de Djello Biafra, ancien chanteur des Dead Kennedys. Elle emplit son sixième album parlé sorti en 2000, qui s'intitule « Become the Media », « Deviens le média », ce que permet justement Internet à la même époque.
Whose sole message is to buy ever more officially overpriced merchandise and toys.
Dans ce long discours de 16 minutes, dernier morceau de son album, Djello Biafra affirme le droit pour chacun, et notamment les plus jeunes, à se dissocier de l'abrutissante culture des mass-médias et des stratégies de marketing qui l'accompagnent. Il mystifie les dot-com cowboys et invite à jeter les téléviseurs par la fenêtre. Puis il lance haut et fort
« No, not quite. » We don't hate the media, we've become the media.
Nous ne détestons pas les médias, nous sommes devenus les médias. Puis il enchaîne en associant Internet, les radios pirates, les mouvements punk et hip-hop, les labels de musique indépendants, les films indépendants et même les chaînes de télévision indépendantes. Et tout cela n'est que la partie immergée de l'iceberg. Pour ce fervent militant, la parole citoyenne est en marche.
Back when I was block rocking.
Chemical Brothers. La pochette du single de ce titre, Block Rocking Beats, sorti en 1997, représente une grenade et une plume. On pourrait y lire la prise de parole explosive qu'offre Internet. Cette même année 1997, le 2 février, un texte est mis en ligne sur le site français usine.net. En voici ses premières phrases. Le web indépendant, ce sont ces millions de sites offrant des millions de pages faites de passion, d'opinion, d'information, mises en place par des utilisateurs conscients de leur rôle de citoyen. Le web indépendant, c'est un lien nouveau entre les individus, une bourse du savoir gratuite, offerte, ouverte, sans prétention. Face aux sites commerciaux, aux messages publicitaires agressifs, destinés à ficher et cibler les utilisateurs, le web indépendant propose une vision respectueuse des individus et de leur liberté. Il invite à la réflexion et au dialogue. Ce texte, c'est le manifeste du web indépendant, rédigé à plusieurs mains par un collectif anonyme nommé Mini Réseau, R-E-Z-O, avec un Z, comme Zorro. Et l'on voit bien le léger décalage avec la déclaration d'indépendance du cyberespace que John Perry Barlow écrit un an plus tôt. Dans les deux cas, le web est un espace de liberté pour les individus, mais dans le texte français, il ne s'oppose pas tant à l'État qu'aux règles implicites imposées par un web marchand déjà saturé. Et à l'aube des années 2000, Internet s'apprête à ébranler certains secteurs du grand marché international. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots. Dr. Dre's dead, he's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, 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 Slim Shady, I'm sick of him. Look at him, walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is by the time they hit fourth grade. They got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Le célèbre titre d'Eminem, The Real Slim Shady, sorti en 2000, a sans doute été l'un des plus échangés via un logiciel né moins d'un an plus tôt, un certain Napster, le cauchemar de toute une industrie. Dans ses paroles, Eminem s'amuse d'ailleurs à placer cette phrase dans son morceau « Je devrais télécharger sa musique en MP3 ». Et comme souvent depuis les débuts d'Internet, Napster est encore une histoire d'étudiants têtus et de détournements.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk.
Au début des années 90, le format de compression audio MP3 naît en Europe. Il est issu de la collaboration de chercheurs néerlandais, allemands, italiens et français. Au cours de leurs tests, ils utilisent le titre « Tom's Dinner » de Suzanne Vega, qu'on entend actuellement, pour affiner leur algorithme de compression. Ce format MP3, qui sortira officiellement en 1993, permet de réduire drastiquement le poids d'un fichier son avec une perte de qualité minimale. Pour les audiophiles avertis, cette légère perte, c'est déjà trop. Mais pour la grande majorité des mélomanes, le MP3, c'est surtout l'occasion de pouvoir stocker ses morceaux préférés sur son ordinateur, dont les disques durs sont loin d'offrir autant d'espace qu'aujourd'hui. L'institut allemand Fraunhofer, qui a financé une grande partie de la recherche, détient la majorité des droits d'utilisation du format MP3. Il imagine donc un business model assez simple, faire payer des licences aux professionnels de la musique, ceux qui ont besoin d'encoder leurs morceaux en MP3, et laisser libre de droit la technique permettant de décoder le format MP3. Les développeurs peuvent donc librement créer des lecteurs de MP3 que chacun pourra utiliser sur son ordinateur. Ainsi naît, en 1997, Winamp, l'un des lecteurs de MP3 les plus connus. Dans ce titre, Do the Evolution de Pearl Jam, Eddie Vedder chante l'histoire d'un homme enivré dans sa propre puissance grâce aux nouvelles technologies. Un morceau publié sur l'album Yield que l'on peut trouver en MP3 sur internet dès sa sortie en 1998. Apparemment, le business model de Fraunhofer a connu un petit raté. En effet, en 1997, un étudiant australien récupère l'un des logiciels d'encodage édités par l'Institut allemand sans passer par la case paiement. Il arrive à ouvrir le capot de l'encodeur et dépose le code source sur l'un des serveurs d'une université américaine. Avec ce petit mot, ceci est un logiciel gratuit, merci à Fraunhofer. D'un coup, l'encodage devient aussi accessible que le décodage et le MP3 prend son envol.
Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
We'll be right back.
Music makes the people come together, chante Madonna en 2000. Et ce n'est pas Sean Fanning, l'étudiant américain à l'origine de Napster, qui va la contredire. En 1999, les MP3 circulent sur le réseau, mais leur échange n'est pas toujours simple. Fanning imagine donc un logiciel qui permettrait, à travers Internet, de connecter les disques durs des utilisateurs les uns avec les autres. Comme une gigantesque discothèque mondialisée. Le succès est immédiat. Profitant des connexions haut débit de leurs universités, les étudiants s'échangent des morceaux à tout va. Un an après son lancement, sur le seul mois de septembre 2000, près d'1,4 milliard MP3 sont échangés sur Napster. La musique circule comme jamais, sous le regard catastrophé des majors du disque. Des étudiants ont cassé leur modèle économique. Du côté des artistes, il y a ceux qui s'indignent, comme Lars Ulrich, le batteur du groupe Metallica, et ceux qui voient en Napster une chance, comme le rappeur Chuck D, l'un des cofondateurs du groupe Public Enemy. Il écrit d'ailleurs un éditorial pour le New York Times titré « Free Music can free the artist ». La musique libre peut libérer l'artiste. Il y compare Napster à un nouveau format de radio, libre, évidemment. De quoi combattre le pouvoir, comme sur l'un des titres les plus célèbres de Public Enemy, Fight the Power.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Music hitting your heart, cause I know you got soul.
Hey.
Listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing.
Hey.
Giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need.
Hey.
Our freedom of speech is freedom of death.
We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power! Fight the power! Fight the power!
We got to fight the power that beat! As the rhythm's designed to bounce with counts, is that the rhyme? Designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make you tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange.
People, people!
We are the same, no we're not the same, cause we don't know the game. We need is awareness. We can't get careless.
You say, what is this?
My beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness.
Don't rush the show. You got to go with what you know.
To make everybody see. In order to fight the powers that be.
Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power.
L'industrie du disque aura finalement raison de Napster. Après les poursuites retentissantes engagées par des artistes comme Metallica et Dr. Dre, le procès lancé par la puissante Recording Industry Association of America, la RIAA, arrive à son terme en mars 2001. Le verdict est implacable. Pour avoir violé les règles du droit d'auteur, Napster doit fermer son service. L'intention de Sean Fanning était bien sûr de simplifier le partage de musique en ligne, mais surtout de rendre plus direct les échanges entre personnes autour de la musique. Pour les musiciens comme pour les amateurs, Napster était un nouveau canal de diffusion ouvert et sans intermédiaire, exactement la liberté que Chuck D entrevoyait. Napster interdit, les pontes de l'industrie musicale pensent avoir remis de l'ordre dans ce fichu réseau de pirates. Sauf que, rapidement, d'autres prennent la suite. G-Nutella, Kaza, LimeWire, eDonkey, autant d'alternatives qui offrent les mêmes possibilités d'échange. Alors que la bulle des .com explose et que certains veulent faire du web un kiosque, Napster a, presque sans le savoir, ouvert la voie à un retour aux fondamentaux d'Internet, l'échange simple et direct entre deux personnes connectées. Le pair-à-pair ou peer-to-peer en anglais, dans lequel l'information circule librement entre les utilisateurs. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. En déposant plainte dès le 9 décembre 1999, à peine 6 mois après le lancement de Napster, la RIAA a offert une gigantesque publicité au logiciel, provoquant un engouement mondial pour une technologie contre laquelle elle voulait justement lutter. Bienvenue dans l'effet Streisand, du nom de l'actrice et chanteuse Barbra Streisand, refrain entêtant de ce morceau du duo Duck Sauce. L'effet Streisand est né en 2003 grâce à la chanteuse elle-même. À l'époque, Ken Adelman travaille sur un projet pour surveiller l'évolution de l'érosion de la côte californienne. Pour cela, il photographie l'ensemble du littoral à raison d'une photo prise en hélicoptère tous les 150 mètres et dépose l'ensemble sur son site californiacoastline.org. Manque de bol, c'est aussi sur cette côte que Barbra Streisand a choisi d'installer sa grande et belle demeure. Dès qu'elle voit sa villa apparaître sur l'une des 12 200 photos mises en ligne, Barbra Streisand décide de poursuivre Ken Adelman pour violation de la vie privée. Un coup de pub magistral pour le projet d'Adelman. 420 000 personnes visitent le site le mois suivant. L'effet Streisand était né. Ainsi va Internet. Qu'il s'agisse d'une photo de villa californienne ou d'un logiciel de partage de musique, plus vous tentez d'empêcher ou de dissimuler un fait ou une information, plus vous lui donnez de visibilité. Avec Napster et ses successeurs, la musique circule donc hors des réseaux habituels. Elle devient ou redevient un objet d'échange, de discussion, mais aussi de réappropriation. Le mash-up, bien connu des DJ des années 80, connaît alors un engouement populaire, un hack musical où chacun joue à détourner les mélodies d'origine.
watching him go.
Dans son titre A Stroke of Genius, Roy Kerr, alias Freelance Hellraiser, mêle les guitares de The Strokes avec la voix de Christina Aguilera, sans demander l'autorisation à personne, bien sûr. Et son mashup va tourner sur les réseaux comme jamais. En croisant ces morceaux récupérés illégalement, Roy Kerr démontre que, loin du piratage dénoncé par les majors, le peer-to-peer peut aussi donner naissance à d'autres créations. À travers le réseau, de nouveaux repères culturels s'inventent. Dans ces années 2000, alors que le web tisse sa toile, une sous-culture commence à germer au cœur du réseau. Et elle donne entre autres naissance au mème. Ce terme, posé en 1976 par le biologiste et éthologue britannique Richard Dawkins, n'est pas spécifique à Internet. Il s'agit simplement d'objets culturels qui se diffusent dans une communauté par reproduction ou imitation. Sur Internet, les mèmes sont des images, des textes, des chansons ou des vidéos qui, derrière leur apparente futilité, sont des outils de reconnaissance pour les différentes communautés. Et ces mèmes, qui circulent dans les internets, héritent de certaines caractéristiques fondamentales du réseau. Le jeu, la créativité et le détournement.
What happened? Someone set up Azkaban. We get signal. What? Main screen turn on. It's you.
How are you, gentlemen? All your base are belong to us. You are on the way to destruction.
What you say?
You have no chance to survive, made your time. Ha ha ha.
Ce morceau, par exemple, All You Bays Are Belong To Us, est l'un des premiers mèmes musicaux à circuler sur Internet. Composé par le groupe électro The Laziest Man on Mars, il tourne en ridicule les traductions absurdes d'un jeu japonais Zero Wing. Et notamment cette phrase, All Your Bays Are Belong To Us, littéralement, toutes votre base sont nous appartiennent. À la fin des années 90, cette simple phrase est devenue un véritable phénomène culturel dans la communauté des développeurs informatiques. Mais c'est aussi la bande-son d'une animation faite avec le logiciel Flash et mise en ligne en 2001. Elle fait alors le tour du web en dépassant le cercle des bricoleurs de code. Jusqu'à être taguée en 2003 par des étudiants farceurs dans une petite bourgade du Michigan où, en pleine guerre du Golfe, le chef de la police locale qualifiera ces inscriptions de terroristes.
Yeah,
dibba-dibba-dibba-dibba-boo. But is that little as they land over the ka-da-ga-da-ga-doo-doo-day-a-do.
La chanson du poireau, un autre célèbre mème sonore. Ce n'est rien d'autre que la superposition d'une boucle de 26 secondes sur laquelle se répètent 4 images tirées d'un dessin animé japonais, accompagnées d'un extrait d'une chanson populaire finlandaise, elle aussi en boucle, Yeva Poloka, la Polka d'Eve. L'animation a simplement été postée en 2006 par un utilisateur anonyme sur le site 4chan, épicentre sulfureux d'une partie de la sous-culture web. Aussi simple qu'absurde, cette animation a rapidement entraîné de multiples remixes et détournements. Là, vous entendez par exemple un remix de la chanson du poireau à partir d'images et de sons tirés du film allemand La Chute, qui met en scène les derniers jours d'Hitler. Ce remix, en faisant chanter la chanson du poireau à Hitler, devient d'autant plus absurde. Les mèmes ont vite pris l'habitude de tourner en dérision de nombreux symboles culturels ou historiques. C'est notamment ce qui en fait une contre-culture à part entière. Il s'agit non seulement de se réapproprier les éléments d'une culture mondialisée, mais aussi de s'amuser à les faire se percuter, une façon comme une autre de digérer l'époque. Et ce faisant, avec ce remix mêlant la chanson du poireau et Hitler, nous frôlons dans cette émission le point Godwin. Là encore, un concept émanant de la culture du réseau. Cette notion de point Godwin découle de la loi de Godwin, énoncée en 1990 par un avocat américain, Mike Godwin. Je le cite, « Plus une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. » Mike Godwin tire cette loi de sa propre pratique du réseau Usenet, un réseau de forums très développé dans les années 90. Le point Godwin est souvent atteint par des personnes qui sont à court d'arguments et qui ne trouvent pas d'autre solution que d'agiter le spectre de l'extrémisme pour justifier leurs propos. Le côté rigolo, c'est que depuis son expansion dans les années 2000 et encore aujourd'hui, Internet est régulièrement fustigé médiatiquement comme un repère de nazis ou de pédophiles. Le point Godwin est donc souvent atteint par des personnes qui restent loin du réseau, ne le connaissent pas ou peu, et en ont donc une vision biaisée et partielle.
Hello. Good morning, Catherine. This is your employer calling.
Good morning, Mrs. Thistletwart.
And I need you to teach my class in the morning. And then the little health breakthrough will come up.
I get to teach all by myself?
I trust Catherine. And you may choose the subject.
Wow, thanks, Lavinia.
Catherine, when you call me by my first name, the children don't respect me.
Sorry, Mrs. Thistletwat.
Thank you.
Finally, I get to teach a whole lesson all by myself, and I'm going to choose something relevant, something modern, the internet! The internet is really, really great.
For porn!
Oh,
sorry. You don't mean to.
Well, if you wouldn't mind please being quiet for a minute so I can finish.
Ce passage de la comédie musicale Avenue Q, créée off-Broadway en 2003, retranscrit bien l'état d'esprit d'une partie de cette sous-culture du web. Le personnage de Kate prépare un cours sur les vertus éducatives d'Internet, mais un autre personnage, Tricky Monster, ne cesse de venir l'interrompre en lui expliquant qu'Internet c'est sans doute pratique pour l'éducation, mais c'est surtout super pour la pornographie, le porn. Toujours le détournement et l'humour. C'est vrai que la pornographie est présente sur Internet, tout comme elle l'était dans les sex shops, bien avant son invention. Réduire ce réseau à ses extrêmes n'a pas plus de sens que si on appliquait cette façon de penser à notre société dans son ensemble. Et puis, Internet n'est pas uniquement empli de pornographie, il est aussi plein de chats.
Some people think the Internet is a series of tubes. Some people think it's made of wires and lasers and some hats. Some people think it's stuck together with a load of glue. But they're all wrong because the internet is made of cats. The internet is made of cats. The internet is made of cats. Cats, 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 cats. The internet is made of cats. The internet was born in Japan 2001. There were not many cats, so bandwidth was not very high. To get the cats around the net, they had to keep them small. So they compressed kittens using the ancient art of bonsai. Although more kittens came online with each and every day, the connectivity and bandwidth of the net weren't great. Because the kitten numbers did not grow as you would hope. As God kills a kitten every time he sees you masturbate. Because the internet is
made. Eh oui, l'internet est fait de chats, comme le chante Rather Good en 2010. On n'en est pas à un détournement de plus. En fait, Internet est fait de ce que ses utilisateurs, c'est-à-dire chacun d'entre nous, choisit d'y mettre. C'est un outil qui a pour seule orientation celle de son architecture. Un réseau décentralisé, structuré pour relier entre eux des utilisateurs et des utilisatrices et faire en sorte que l'information circule librement. C'est grâce à cette architecture que peut naître en 2001 un projet comme Wikipédia. On y retrouve les valeurs portées par Richard Stallman et la Free Software Foundation. Un projet libre, ouvert et transparent auquel tout le monde peut participer. L'ensemble des contenus de Wikipédia sont placés sous une licence Creative Commons, ce qui permet leur réutilisation et donc la circulation du savoir. Régulièrement épinglé pour des approximations pourtant minoritaires, Wikipédia a aussi l'avantage d'être perfectible et donc corrigé en temps réel en cas d'erreur. Les fils de discussion liés à chaque article permettent de débattre des changements possibles et donc de construire cette encyclopédie par la réflexion et l'échange sur des bases réellement collectives et collaboratives. En ce début des années 2000, Internet devient progressivement une grande place publique où chacun peut prendre la parole. Ce qui a eu tendance à effrayer les anciens détenteurs de la parole publique, les médias, souvent suspicieux vis-à-vis d'Internet. La liberté d'expression est pourtant l'un des fondements de nos démocraties et avec le réseau, pour la première fois, elle devient accessible, à portée de clic. Et ça peut avoir de profonds impacts politiques.
Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du non du côté...
Au printemps 2005, la France se passionne pour le référendum autour de la nouvelle constitution européenne. La classe politique est majoritairement pour le oui et les prises de parole médiatiques reflètent cette réalité. Sur les trois principales chaînes de télévision, plus de 70% du temps de parole est monopolisé par le oui. Le non trouve donc sa place ailleurs, sur Internet. À l'inverse de la télévision, 67% des sites traitant du référendum déploient les arguments du non. Mais contrairement au débat cathodique, la parole sur le web est plus ouverte, certainement plus dispersée et moins policée parfois, mais cela permet aussi au débat d'être plus complexe. Ces échanges nourris sur le réseau autour de la question ne sont sans doute pas étrangers au résultat final du vote. Parmi les sites qui accueillent la discussion et contestent l'omniprésence du oui sur les médias traditionnels, il y a un certain réseau.net, un site fondé par une partie des membres du mini-réseau, ce collectif qui avait rédigé le manifeste du web indépendant en 1997. Et entre-temps, ils ont lancé en 2001 le logiciel SPIP, pour système de publication pour l'Internet. Un logiciel libre, encore un, qui simplifie la publication en ligne. Avec SPIP, vous pouvez facilement publier des billets sur votre site web sans avoir à le recoder à chaque fois. Ainsi naît un des premiers systèmes de gestion de contenu, ou CMS, qui est aujourd'hui un principe utilisé sur de nombreux sites. Une fois de plus, ce sont les utilisateurs d'Internet qui inventent les outils dont ils ont besoin et façonnent les usages du réseau.
I'm going to Big Joseph, like a big message. I stand for the legalization of ganja. Respect to herbalist man in the world. I'm unsealing a part of your religion to raise a bit of rest of our believer. Believe in the only creator.
En décembre 2006, la une du magazine américain Time affiche un ordinateur avec un lecteur YouTube et dedans uniquement ces trois lettres, You. Pour le magazine, la personne de l'année, c'est vous, nous, les utilisateurs. YouTube, la plateforme de partage vidéo en ligne, est née presque 2 ans plus tôt, en 2005. En juillet 2006, plus de 65 000 vidéos y sont déposées chaque jour. Et c'est parmi cette matière que le musicien israélien Ophir Kutiel, alias Kutiman, est allé piocher en 2009 pour composer ce titre « This is what it became ». Tout comme pour l'ensemble des morceaux de son album « Through You », littéralement « À travers vous », Kutiman a donc savamment assemblé des vidéos de musiciens amateurs. Tous ces utilisateurs sont bien sûr crédités au générique de chaque titre, faisant ainsi de cet album un hommage au contenu généré par les membres de la vaste communauté YouTube. En ce début des années 2000, on a également vu l'ascension de la plateforme Blogger, l'un des pionniers du blogging qui permet à chacun de publier simplement ses pensées ou ses coups de gueule en ligne. Une plateforme qui sera bloquée dans une dizaine de pays, dont l'Iran, la Chine ou Cuba. L'internet a beau se répandre aux quatre coins du globe, le web n'est pas le même partout. Il y a aussi MySpace, lancé en 2003, le célèbre réseau social rapidement pris d'assaut par les musiciens en tout genre. En 2006, c'est l'un des sites les plus consultés au monde, mais la mode passera à la fin des années 2000. Et puis, en septembre 2006, un certain Facebook, qui est déjà accessible pour les étudiants de plus de 27 000 universités à travers 7 pays, s'ouvre au monde. Désormais, il suffit d'une adresse e-mail pour s'y inscrire. Un an plus tard, le réseau social franchira la barre des 100 millions d'utilisateurs, faisant progressivement basculer le web dans une nouvelle ère. Nous voilà rendus un peu plus proches d'aujourd'hui. Au terme de ce quatrième épisode réalisé par Olivier Bétard et Alain Joubert, et bien sûr disponible en podcast sur franceculture.fr. Dans ces années 2000, Internet a connu une expansion considérable. Comme l'affiche le Time Magazine, ses utilisateurs sont passés sur le devant de la scène, faisant du web un endroit avant tout social, le fameux Web 2.0. Mais parallèlement, les utilisateurs et leurs données sont aussi devenus la monnaie d'échange d'un réseau qui s'est recentralisé autour de géants comme Google, Facebook ou Amazon. Rêvé comme un outil de libération dans les années 70, l'ombre du contrôle et de la surveillance plane désormais sur cet Internet de la fin des années 2000. Voilà le retournement qu'il nous restera à explorer dans notre dernier épisode. D'ici là, n'abusez pas des cookies et prenez soin de vos données, car elles vous appartiennent.